Est-ce que vous aimez les montagnes russes? Est-ce que vous aimez les quelques secondes d'apesanteur qui précèdent le looping? Vous êtes dans votre wagon, vous remontez lentement les rails, très lentement, jusqu'à vous retrouver au sommet de l'attraction. Bientôt, vous êtes propulsé en avant, vous allez descendre à une vitesse folle plusieurs dizaines de mètres, embarqué dans un wagon de fortune. Pour supporter ces quelques secondes d'attente, avant la chute, vous devez avoir le cœur bien accroché. Sinon, vous risquez de faire un malaise. Votre cœur va bondir dans votre poitrine. Cette sensation est si forte et désagréable que certains refusent même de mettre un pied dans les parcs d'attractions. À part les montagnes russes, qu'est-ce qui vous provoque des hauts le cœur? Ah, hauts le cœur. Quelle belle expression pour ne pas dire nausée. C'est à se demander pourquoi Sartre a préféré le mot nausée comme titre à son célèbre roman. Peut-être que l'expression haut le cœur n'était pas assez explicite pour parler de cet étrange malaise quand on prend conscience de l'absurdité du monde. Bref, en tout cas, ça ne saute pas aux yeux. Mais pourtant, les parcs d'attractions et la littérature ont ce même pouvoir sur nos corps désenchantés. Ils provoquent parfois des haut le cœur. Quand on est sur les rails d'une attraction, on sait à l'avance où on va. On a quelques secondes pour se préparer au grand saut. Mais les romans ne nous laissent pas cette possibilité. Vous tournez chaque page en retenant votre respiration. Vous ne savez pas où l'auteur vous emmène. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'écrivaine à qui est dédié cet épisode va vous donner des hauts le cœur. Elle ne peut pas vous laisser indifférente. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ses romans. Bonjour à tous, bienvenue dans Cordel. Ce podcast est consacré aux femmes de lettres, à celles qui nous montrent le chemin. Plongeons dans la mémoire et l'imagination d'une écrivaine surprenante. Découvrons ensemble son parcours, son quotidien, son style, ses inspirations et ses combats. Aujourd'hui, partons sur les traces de Shadort Javan. Née en Iran et exilée en France, la romancière et essayiste Shadort Javan est l'auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages traduits dans une dizaine de langues. Elle arrive en France en 1993 sans être francophone. Elle apprend le français en autodidacte, en étudiant les manuels scolaires, en lisant les œuvres de Maupassant, de Camus, de Gide, de Romain Gary, un dictionnaire à la main. Le français est la septième langue qu'elle pratique. Mais si elle ne parle pas français, pourquoi décide-t-elle de partir en France, de tout quitter? Dans une récente interview, elle explique qu'elle n'avait plus d'avenir dans son pays. À la chute du mur de Berlin, elle se demande quelles vont être les conséquences de la fin de la guerre froide en Iran. Mais elle constate assez rapidement que les Européens choisissent la réelle politique et elle comprend ce que ça veut dire. La République islamique d'Iran est installée dans la durée et la situation des femmes iraniennes ne fera qu'empirer. Elle a donc 25 ans quand elle arrive en France, sans parler un mot de français. Les premiers mois sont une expérience brutale. Elle se sent infirme. Elle fait des petits boulots, elle est immigrée, sans argent, sans contact. Avec un immense courage, elle travaille dur. Elle apprend le français. Mais toutes ces difficultés et ces angoisses la conduisent au suicide. Elle sera sauvée in extremis. Après son rétablissement, elle commence des études universitaires en psychologie sociale et en anthropologie à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle obtient la nationalité française en 2015 et renonce à sa nationalité iranienne. En 2003, elle reçoit le Grand Prix de la laïcité et en 2006, le titre de chevalier des arts et des lettres. Depuis son premier livre, « Je viens d'ailleurs », publié en 2001, Shadort Javan a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur trois de ses romans. Commençons par parler de son roman « La muette », publié par Flammarion en 2008. C'est la confession d'une jeune femme de 15 ans, condamnée à la pendaison. Ce roman est une fiction très réaliste et très documentée. Shadort Javan aime entremêler la fiction et la réalité. Les premières pages du roman nous apprennent qu'une journaliste a reçu un manuscrit anonyme par la poste et qu'elle compte bien le publier. Ce manuscrit relate deux récits entremêlés. La jeune femme nous parle à la fois de sa vie en prison. C'est le temps du présent. Et elle nous parle aussi de son passé. L'héroïne, une adolescente mariée de force à un mollah, revient sur l'histoire de sa tante muette. Et on comprend, page après page, pourquoi notre héroïne s'est retrouvée emprisonnée. Par cette structure romanesque, avec ses premières pages sous la forme d'un échange épistolaire, l'auteur pousse le lecteur à se poser des questions. Elle cherche immédiatement à faire réfléchir le lecteur sur la véracité de ce qui est raconté. Et le lecteur referme ce roman en se demandant comment il est possible que la réalité se révèle plus effroyable que la fiction. Shadart Javan a un talent exceptionnel pour dresser des portraits bouleversants de femmes. En 2013, elle publie aux éditions Fayard le roman La dernière séance. C'est un roman à deux temps, où s'entrelacent des séances de psychanalyse que l'héroïne, Donia, poursuit à Paris, et le récit de son parcours d'immigré. Donia, encore étudiante, fuit Téhéran, car elle a subi un viol collectif par les gardiens de l'ordre moral. Elle est tombée enceinte et elle est prête à tout pour avorter. Alors elle part à Istanbul, mais les ennuis ne font que commencer. Son père meurt, elle ne trouve pas de travail, elle doit renouveler son droit de séjour tous les 3 mois. Elle enchaîne les mauvaises rencontres. Au cours de ses séances chez le psy, Donia comprend peu à peu comment elle en est arrivée là, dans sa vie, seule à Paris. Elle remonte jusqu'aux souvenirs de l'enfance. Une enfance terrible, coupable et brisée. Car dès la naissance, Donia est délaissée. Sa mère désirait ardemment un garçon. Et elle ne pardonnera jamais à sa fille d'être née fille. Cette jeune femme qui se tient devant le psy ne sait comment faire pour ne pas être rattrapée par son destin. Elle rend ses parents et son pays responsables de ses malheurs. La jeune femme cherche alors à fuir la réalité, cette insoutenable réalité. Elle invente mille et une autres histoires pour oublier la sienne. L'imagination devient son exutoire. Finalement, ce roman chante les louanges de la fiction. Et c'est aussi une ode à la langue française, car le seul bonheur authentique de la vie de Donia est sa maîtrise progressive du français. On ne peut qu'être troublé par les ressemblances entre la vie de Donia et celle de notre écrivaine, Shadart Javan. Un troisième roman permet de se faire une image plus nette de l'écriture de Shadart Javan. Son roman, Les putes voilées n'iront jamais au paradis, est publié aux éditions Grasset en 2016. Ce roman donne la voix à des prostituées assassinées en Iran. Leurs voix, crues, parfois teintées d'humour, vont vous surprendre et vous choquer. Le titre de ce roman, provocateur, avec son point d'exclamation, en dit long sur la puissance de ce roman à couper le souffle. L'auteur fait alterner le destin parallèle de deux jeunes femmes, très belles, séparées à l'âge de 12 ans, et les témoignages d'outre-tombe, des prostituées, assassinées, pendues ou lapidées en Iran. À travers ce récit bouleversant, on comprend les ravages de l'impunité des crimes commis envers les femmes iraniennes. À travers la rapide présentation de ces 3 romans, vous aurez compris que Shadart Javan a fait de sa plume une arme. Le Figaro la surnomme « l'enragée tranquille ». RFI dit à son sujet qu'elle est une femme en colère, une auteure en guerre. Oui, pour Shadart Javan, chaque roman est un combat. Un roman doit être politique. Certains sujets, tels que les dangers des dogmes religieux, reviennent constamment dans les romans de Shadart Javan. L'auteur s'intéresse plus particulièrement au port du voile. L'attitude conciliante avec le voile, dit-elle, n'est pas sans danger. Depuis plusieurs années, l'auteur demande que le voile des mineurs soit reconnu comme une maltraitance. Elle explique que voiler une mineure signifie qu'elle est nubile. Autrement dit, le voile définit la mineure comme un objet sexuel. Non sans une pointe de provocation, elle dit « Si les hommes adorent le voile, ils n'ont qu'à le porter eux-mêmes. » Au-delà des débats autour du voile, ce que dénonce l'auteur, c'est avant tout les humiliations que subissent les femmes. La haine de la chair, la haine du corps féminin et du plaisir. Vous l'aurez compris, Shadart Javan est née pour être écrivaine. C'est par l'écriture qu'elle peut mener tous ses combats. Et elle a des méthodes de travail bien à elle. Shadart Javan adore lire plusieurs livres en même temps, de la poésie, des essais, des romans. Elle écrit constamment. Elle griffonne ses notes dans les livres qu'elle lit, à tel point qu'elle ne peut plus les prêter. Elle travaille de manière bordélique. Elle écrit au crayon, très peu sur l'ordinateur. Elle a besoin d'être seule pour écrire. Elle écrit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe l'heure du jour. Shadart Javan, férue d'actualité, tire essentiellement ses inspirations de la presse. C'est ce qui rend ses écrits encore plus percutants, plus troublants. Sa deuxième source d'inspiration est bien évidemment sa propre vie, sa propre expérience. Shadort Javan mélange fiction et réalité. Elle aime jouer avec les codes du roman. Elle s'adresse parfois directement à son lecteur, comme dans « Les putes voilées n'iront jamais au paradis », pour lui rappeler que ce qu'elle écrit est issu des coupures de presse. Bien que l'auteur s'inspire de certaines de ses propres expériences, elle tient à préciser qu'elle ne croit pas à l'autobiographie. Elle dit « Je suis mon personnage et je ne le suis pas ». Avec Shadort Javan, la frontière entre la réalité et la fiction est toujours très fine. Son écriture vive et révoltée est sans pathos, avec une distance presque clinique, sûrement influencée par ses études en psychologie. Elle écrit de manière crue et froide, comme si la violence était devenue d'une banalité ordinaire. Et Shadort Javan semble écrire la mort à ses trousses. Elle ne se perd pas en route, elle va à l'essentiel. Chaque phrase semble parfaitement maîtrisée, réfléchie. Son style est si incisif. L'écriture de Shadort Javan est aussi remarquable, car l'auteur rejoint la grande famille des écrivains capables d'écrire des chefs-d'œuvre dans une langue qui n'est pas leur langue première, comme Samuel Beckett, Kundera, Tahar Ben Jeloun, Amin Maalouf ou Abdel Attaya, et tant d'autres encore. En 1998, Shadort Javan commence une thèse intitulée « La création littéraire dans la langue de l'autre », avec un grand A majuscule, en travaillant sur les œuvres de Ionesco et de Beckett. À ce titre, soulignons que le prix Nobel de littérature 2021 vient d'être décerné à Abdulrazak Gurnah, et celui-ci écrit en anglais, même si sa première langue est le swahili. Les écrivains capables d'écrire dans plusieurs langues sont vraiment très impressionnants. Tellement impressionnant que même Shadort Javan n'y aurait pas cru si on lui avait dit plus jeune qu'elle deviendrait une écrivaine française. Dans l'épilogue de son roman « Je ne suis pas celle que je suis », publié en 2011 aux éditions Flammarion, l'écrivaine disait que rien n'était moins probable qu'un exil en France. Rien ne la destinait à une vie française, même dans ses rêves les plus osés. Elle était à mille lieues de s'imaginer écrivain de langue française. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur ses combats et son style, lisons quelques extraits. Le premier extrait est issu de son roman « La muette ». Le gardien est sans doute terrifié par la tête que je dois avoir, mais aussi par mes gémissements. La douleur est parfois insupportable. Aujourd'hui, il m'a glissé un petit mouchoir en papier. Au début, j'ai cru que c'était pour me moucher. Je l'ai trouvé très attentionné et l'ai remercié. Mais j'ai constaté que c'était un demi-mouchoir froissé et un peu noirci. J'ai senti quelque chose au milieu, minuscule. C'était un tout petit bout d'opium. Je l'ai mis tout de suite dans ma bouche. Il n'a pas l'air de quelqu'un d'ici. Il doit venir d'une grande ville pour oser une telle hardiesse. Je me sens dans un état étrange que je n'ai jamais connu auparavant. Pendant mon interrogatoire, je n'ai pas dit mot. J'ai reçu les coups sans cri. J'ai fait moi aussi la muette. Ces trois jours m'ont fait comprendre le silence obstiné dans lequel ma tante s'était réfugiée. Sa façon absolue de s'être murée dans le silence imposait aux autres le respect et parfois les effrayait. Se taire signifiait peut-être ne pas trahir la vérité. On en était venu à l'appeler la muette. L'était-elle réellement ? Personne ne le savait, car elle ne l'avait pas toujours été. Jusqu'à ses 10 ans, elle parlait. Plus tard, bien que muette, elle faisait parler son silence comme personne. La joie, la tristesse, la haine, l'amour, la tendresse, la colère, l'indignation, l'espoir et le désespoir s'exprimaient dans son regard, dans chacun de ses traits de son visage, dans sa façon de se lever et de partir, ou alors de rester, d'écouter et de vous caresser d'un seul regard. Même les plus ignorants des analphabètes pouvaient lire sur son visage ce qu'elle disait sans mots. « Elle me manque, ma tante muette. » Elle s'était tue, mais son cœur ne s'était pas fermé. Elle avait fait du silence son art de vivre. Quant à moi, arrivé à ce point, j'ai le devoir, le besoin de raconter son histoire. Je vous propose maintenant de découvrir un nouvel extrait de son roman « La dernière séance » publié aux éditions Fayard en 2013. Dès que le signal ordonnant de garder les ceintures attachées se fut éteint, elle se précipita aux toilettes, sortit sa bague de son vagin et la cacha au fond de son sac à main. Assise, la tête contre le hublot, elle regardait le ciel. Quelques mois plus tôt, elle avait fait ce même voyage à Istanbul avec sa mère pour rencontrer un prétendant iranien qui résidait à Londres dans le but de faire un mariage arrangé. Elle n'avait ressenti aucune attirance pour lui et avait refusé de se marier. Et depuis, sa vie avait basculé. Était-ce elle qui avait provoqué la vie? Ou la destinée lui avait-elle jeté un mauvais sort? Était-ce la vie qui se jouait d'elle? Ou elle qui s'était jouée de la vie? Quelques mois seulement. Et elle n'était plus la même. Chaque épreuve l'avait irrémédiablement changée et rendue un peu plus étrangère à elle-même. Le cœur troublé par la multiplicité de ses sentiments, de ses chagrins, de ses blessures, de ses craintes, de ses actes insensés, elle ne se rendait vraiment compte que maintenant, assise dans l'avion, loin de la terre, de ce qu'elle avait pu accomplir. Se prostituer, se marier, arnaquer un homme et foutre le camp. Raconter sa vie, l'inventer après coup, la bâtir comme une œuvre n'a rien à voir avec la vivre. Personne ne vit sa vie comme un récit, même si parfois nous devenons le récit. Le corps du récit, ce corps sur lequel le récit s'inscrit et se grave à jamais. Et quant à la réalité, elle n'est pas la vie. Pensées, fantasmes, rêves nocturnes ou éveillés, peur, angoisse, espoir et désespoir, déception, amour et haine, pulsion, délire, peine et chagrin, illusion et imagination... construisent la réalité de notre vie et en font partie. Mais le ciel, la terre, les étoiles, le soleil et la lune, la nature, la splendeur cosmique royalement indifférente, les gros nuages enchevêtrés qu'elle avait sous les yeux, cette magnifique présence de la réalité matérielle, qu'a-t-elle à foutre de nous? Qu'elle eût subi un viol collectif, qu'elle fût enceinte, qu'elle ajouta ou non une autre vie à l'univers, qu'elle eût forniqué avec des hommes en échange d'argent, qu'est-ce que ça pouvait faire au ciel et à la terre? Le dernier extrait est issu de son roman « Les putes voilées n'iront jamais au paradis » publié aux éditions Grasset. Y a pas de boulot, pas même pour les hommes. Trop de pauvres, trop de miséreux, trop de drogués. À part une minorité corrompue et extrêmement riche, le reste de la population survit. Même la classe moyenne a du mal à finir le mois. Alors les pauvres, ils peuvent crever de faim, de froid, de maladie, de drogue. Personne ne leur vient en aide. Sauf si tu es au service de la police secrète, sauf si tu collabores avec le régime et espionnes pour lui. Les sanctions ont appauvri 90% des gens, mais 10% s'en sont mis plein les poches et ils roulent en Rolls-Royce et en Porsche. La seule chose qu'ils savent faire, c'est déclarer des jours de deuil national. On n'a que ça dans ce pays, des jours de deuil. Les jeunes rigolent et inventent des blagues en disant que bientôt le calendrier ne suffira pas à contenir tous les jours de deuil des mollahs. Les gens n'en peuvent plus de tant de lamentations, du noir. Plus ils interdisent, plus les jeunes deviennent avides. Alors que mettre du rouge à lèvres est interdit aux femmes, Téhéran a été surnommée la capitale du rouge à lèvres. Et rien que ça en dit long sur l'opposition entre la population et ce régime. Faites un tour en ville, à pied ou en voiture. En voiture, c'est mieux. Et vous verrez qu'en moins d'une minute, vous pouvez ramasser 10 filles. Allez, essayez, vous verrez que je n'exagère rien. Ils ont fait de ce pays un grand bazar à putes. Comme je ne suis pas tout à fait sans cervelle, je me suis dès le début éloignée de la drogue. Parce qu'une fois touchée à cette saloperie, c'est la descente aux enfers. J'ai vu de mes propres yeux des jeunes mères droguées vendre leurs enfants pour une seule dose. J'en ai vu, je vous jure, de mes propres yeux. Les enfants vendus sont numérotés et exploités par des réseaux de trafiquants. Ils sont sexuellement abusés. Faut voir le film Téhéran de Dadher Takmil Homayoun. Un gars quitte sa province et sa famille pour tenter sa chance à Téhéran. Et malgré lui, il est mêlé à un réseau de trafic de nouveau-nés de prostitution. Le film montre les abysses de notre capitale. Un univers de prostituées, de mendiants et de mafieux en tout genre. La pédophilie n'est pas un crime dans ce pays. Même sans drogue, beaucoup de familles pauvres se débarrassent de leurs filles dès l'âge de 7, 8 ans en les mariant à un homme 6 ou 7 fois plus âgé qu'elles. Ce sera toujours une bouche de moins à nourrir. Et puis, une fois mariée, si la fille tombe dans la drogue et la prostitution, c'est de la responsabilité du mari et non du père. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Le prochain podcast sera consacré à l'écrivaine argentine Victoria Ocampo.